Par le biais d'une enquête, d'un reportage, d'un portrait ou d'une chronique, les journalistes nourrissent d'informations les différents outils de communication, les médias. Mais comment sont sélectionnés les sujets? Qui le décide et dans quel but? Le pouvoir des médias dans le débat public est indéniable, alors leur analyse est primordiale. À travers le regard d'un expert, tentons de questionner l'information pour mieux comprendre notre monde et protéger nos démocraties. Je suis Léo Chrysostome, bienvenue dans Médiascopie.
Je suis Élise Lucet, France 2, Cache Investigation.
Vous n'êtes-vous jamais allé à Lyon?
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions à New York.
8h, le journal.
On trouve Maryse Burgot en direct de Londres.
That is a lot of fake news back there.
C'est un champ de bataille, le journalisme.
Dans ce nouvel épisode de Médiascopie, Darek Schuster. Il est photographe de presse ou photojournaliste. Il a travaillé pendant 30 ans ou presque 30 ans au journal L'Alsace. Et en 2022, lorsque la Russie envahit l'Ukraine, il décide de s'y rendre pour photographier le conflit. De retour en France, il est aujourd'hui indépendant et travaille sur de nouveaux projets. Bonjour Darek Schuster.
Bonjour Léo.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, vous préférez photographe de presse ou photojournaliste ?
En fait, les deux termes vont très bien. En fait, nous sommes journalistes, comme nos collègues, confrères, rédacteurs, en fait, comme nos collègues de la télé, de la presse écrite, de la radio. Mais effectivement, pour être plus précis, photoreporter.
Alors, c'est quoi un photoreporter ?
Oui, alors un photoreporter, c'est peut-être une profession assez méconnue en fait dans la famille de la presse, de médias. Le photoreporter, c'est quelqu'un qui utilise finalement la photographie comme moyen d'expression, d'écriture en fait, qui souvent était vu comme quelqu'un qui accompagne le reporter, le journaliste sur le terrain d'actualité. Et finalement, en fait, c'est une vision un peu réductrice de ce que nous faisons en réalité au quotidien, parce qu'aujourd'hui, pour moi, un photojournaliste, un photoreporter, c'est quelqu'un qui anticipe déjà son projet de reportage, qui est capable aujourd'hui de l'analyser en amont et apporter ensuite des images qui racontent une actualité, qui racontent événements avec plus de sincérité possible.
Ce n'est pas juste le moment où on appuie sur l'appareil photo, c'est tout un processus long. Et comment on devient photoreporter ? Est-ce qu'on arrive par la photo, par le journalisme ? Comment ça s'est passé pour vous ?
Oui, alors pour moi, en fait, je pense qu'effectivement, chaque cas est différent. Et moi, je me suis intéressé à la photographie déjà en Pologne. Très très tôt, je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans.
Puisque vous êtes d'origine polonaise.
Effectivement, je suis né à Wrocław, en Pologne, j'ai rencontré un photographe qui réalisait des images de ses voyages. Et je me suis dit que c'était vraiment un métier qui serait parfait pour moi, parce que j'étais curieux du monde, j'étais curieux en fait de la façon qu'on pouvait vivre dans d'autres pays. Et s'il existait quelque part dans le monde un métier qui permettait en plus de raconter ces histoires, je me disais que j'aimerais bien effectivement l'exercer. Et les rencontres, en fait, voilà, c'est un métier de rencontre, fait que j'ai croisé sur mon parcours le rédacteur en chef du journal L'Alsace, donc en Alsace, à Mulhouse, dans le sud de la région d'Alsace, qui m'avait proposé de rejoindre l'équipe du journal, de photographier pour la presse. Après une petite hésitation, parce qu'en fait, ce n'était pas mon univers, j'acceptais effectivement ces challenges. Et j'ai commencé à 24 ans mon travail.
Donc à 24 ans, vous commencez, vous intégrez le journal, qu'est-ce que vous y faites ?
Alors vraiment, le début, c'est le travail d'un localier, en fait. J'avais intégré une équipe avec une dizaine de photographes, hein, dont j'étais le plus jeune. Donc évidemment, tout ce que je pouvais faire, c'était des reportages que mes collègues plus expérimentés ne le faisaient plus ou ils n'avaient plus envie de faire. Mais j'avais de la chance parce que finalement, en fait, comme toute la vie culturelle se passe souvent les samedis soirs, hein, où mes collègues plus âgés, ils voulaient plus sortir le soir, en fait, de chez eux. Donc, j'ai commencé à photographier le spectacle, toujours, en fait. Et plus les petits sujets, en fait, d'un journaliste local dans les villes, qui touchaient la vie de la cité. Et je commençais à prendre le goût, en fait, à ce travail-là, à ce travail qui me permettait de rencontrer beaucoup de gens dans beaucoup de milieux et avoir un regard plus complet sur la complexité de la société, en fait.
Et donc, je le disais en introduction, en 2022, vous quittez vous quittez la France, en tout cas Mulhouse, oui, pour rejoindre l'Ukraine quand le conflit éclate. Pourquoi ?
Alors là, c'est lié peut-être plus à mon histoire personnelle, parce que ça se passe dans l'Est de l'Europe, parce que une partie de ma famille, il y a une partie de l'Ukraine qui était encore avant la Seconde Guerre mondiale polonaise. Lviv, c'est une ville d'où vient une partie de ma famille. Je parle évidemment le polonais, qui ressemble beaucoup à l'ukrainien. Je parle également le russe. Et je pense que tout simplement, je peux être utile en ce moment-là aussi pour notre journal, pour notre groupe de presse. Je pensais tout simplement, dès les premiers instants, quand je me suis réveillé, je me souviens, jeudi matin, que ma place était là-bas, c'était évident.
C'était impossible de rester
donc,
ici.
Donc, c'est moi qui fais la démarche, en fait, en appelant ma rédaction en chef, qui, en quelques heures, me donne effectivement l'autorisation de partir dans le premier temps à la frontière ukrainienne en Pologne pour témoigner sur les premiers jours sur la vague d'immigration, en fait, des familles ukrainiennes qui quittaient les zones qui étaient occupées déjà par l'armée russe ou des zones qui étaient tout simplement bombardées. Et très rapidement, avec mon cosquet, mon collègue, parce qu'on travaille en binôme dans ces situations-là, Pascal Coquille, en fait, on décide de franchir la frontière et nous rendre en Ukraine pour cette fois-ci témoigner directement de la situation dans le pays qui vient d'être envahi.
Et alors, qu'est-ce que vous photographiez là-bas ?
Alors, en fait, les premiers jours de guerre, c'est l'avancement très rapide de l'armée russe qui arrive aux portes de Kiev. Et il n'est pas question, dans le premier temps, de s'approcher, en fait, de la ligne de front. Les premiers jours de cette guerre, en fait, c'est avant tout... comme je disais un peu plus tôt, les mouvements des populations, c'est une société ukrainienne qui s'organise, en fait, qui aide aussi son armée, en fait, très rapidement. Et donc, c'est ça qu'on raconte dans les premiers jours. On raconte cette société ukrainienne, finalement, surprise par cette agression. Et qui rentre immédiatement dans le mode de fonctionnement d'un pays en guerre.
Vous y passez 11 jours, c'est ça, il me semble ?
Oui, c'est ça, oui. Les 11 premiers jours de guerre, en fait.
Et donc, quand vous revenez en France ensuite, qu'est-ce que vous gardez de cette expérience ?
Alors, en fait, c'est vrai qu'on quitte l'Ukraine à pied. avec tous les réfugiés, en fait, par un petit passage frontalier dans le sud de la Pologne. Le directeur de cette école nous avance un petit peu en direction de la frontière. Ce samedi matin-là, je me souviens qu'au moment où il ne peut plus avancer parce que les voitures des réfugiés sont abandonnées, vides, en fait, sur le bord de la route qui mène vers la frontière polonaise. Et il dit que malheureusement, on finira les 12 kilomètres qui restent, on finira à pied avec tous les réfugiés. Et il se met à pleurer. Ces grands bonhommes, en fait, jovial, qu'on croyait indestructible et fort, en fait, il se met à pleurer dans la voiture en nous disant au revoir. Et il me confie que son fils vient juste de partir au front. Et il a peur pour son fils, tout simplement, tout naturellement. Et il nous demande de ne pas les oublier, de dire ensuite dans nos médias en France qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de l'Europe, ils ont besoin de notre aide pour se défendre, mais aussi pour nous défendre. Et donc, ce sont les premiers mots, en fait, qui portent vraiment. Et nous retrouvons un petit peu le porte-parole de cet homme, mais de toute cette population-là, qui crie au secours, en fait, qui a besoin ensuite de notre solidarité. Et donc, pour te répondre, en fait, sur notre retour en France, donc le retour se fait en voiture, donc c'est quand même 16 heures de route, je pense, depuis la frontière polonaise. On a laissé notre voiture sur la frontière polonaise. Et quand j'allume la radio en rentrant, on a roulé toute la nuit, j'allume la radio, en fait, vers 8h moins 10 du matin, c'est précis, parce que je tombe sur une émission de Léa Salamé, qui interviewe Catherine McGregor, en fait, qui est la patronne de la société Engie, et qui, avec une voix caverneuse, annonce que sans doute les Français vont devoir sacrifier certaines choses, en fait, parce que le prix d'énergie a beaucoup augmenté et que peut-être l'hiver prochain, il va falloir baisser la température dans les maisons d'un degré. Et j'ai ressenti un énorme décalage entre ce qu'on venait de voir, de ce qu'une société peut réellement sacrifier dans les situations de guerre. Et 1500 kilomètres plus loin, en fait, le regard sur cette guerre s'est traduit juste par ce petit degré de température ambiante qui est vu comme un sacrifice presque intenable. Et c'est vrai que c'est le premier choc, en fait, de l'opinion publique ici en France et son premier regard, en fait, sur les conséquences de cette guerre.
Merci Darek pour ce témoignage. Vous êtes donc photo-reporter et vous travaillez dorénavant sur des projets à long terme. Avant d'en savoir un peu plus sur ces projets et de recueillir aussi votre regard sur les médias, on écoute Renaud crier sa haine des pousse-mégots, des nez de bœufs, des ringards, des folqueux, des journaleux. Renaud, où c'est que j'ai mis mon flingue ? Sur Alternante FM.
Mes chansons, soit les caresses ou bien les poings dans la gueule, à qui ce soit que je m'adresse, je veux vous remuer dans vos fauteuils. Alors écoutez-moi un peu, les pousse-mégots et les nez de bœufs, les ringards, les folques, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée, vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sous le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démagos dans leurs torchons, je n'irai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables, qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon, je chante pas pour ces blaireaux, et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues, les bordels. Où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes choisir celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne, rien à foutre de la lutte de crasse. Tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Puis qu'on m'a tiré mon canif, un soir au métro Saint-Michel. Je peux plus les pieds dans une manif, sans un nunchak ou un cocktail. À Longwy comme à Saint-Lazare, plus de slogan face aux flicards. Mais les fusils, des pavés, des grenades, violer contre la répression, en défilant Bastille Nation. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez de bœuf et aux pouces mégots, qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je me retrouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Balère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cradingues. Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.
C'était Renaud, vous êtes toujours à l'écoute de Médiascopie sur Alternante, l'émission qui questionne l'information. Je suis toujours en compagnie de Darek Schuster, photoreporter. On l'a dit dans la première partie de l'émission, vous avez quitté le journal L'Alsace et vous êtes désormais indépendant. Alors justement, en quoi ça consiste maintenant votre activité de photoreporter indépendant ?
Avant l'expérience ukrainienne, je ne peux pas ne pas parler de la période Covid qui, à Mulhouse, a vraiment un goût particulier parce qu'en France, c'était un des épicentres en fait, de cette épidémie très rapidement. Et ça change tout, en fait, de travailler sur une actualité forte qui a une portée mondiale quand vous êtes dans l'épicentre de cette actualité. Ça veut dire que très facilement, vous avez l'accès à tout. Vous avez toutes les informations nécessaires parce que vous avez un réseau qui vous le permet. Vous avez le temps. Vous n'êtes pas à l'hôtel, vous êtes chez vous, vous connaissez la géographie de votre ville, donc vous déplacez. Et cette période-là, elle m'avait permis de travailler d'une autre façon. Globalement, les locaux de la rédaction sont vidés, les gens travaillaient chez eux. Et l'hiérarchie d'une rédaction a été bouleversée.
Ça veut dire que vous travaillez déjà un peu plus seul à cette période ?
C'est ça, oui. Et on était quasiment des reporters du terrain, déterminés un peu, hiérarchisés déjà l'information, puisqu'en fait, nous étions souvent seuls à avoir l'accès à cette information. Nous étions vraiment les yeux de la société, quoi. Et je trouvais qu'on touchait là un petit peu l'essence même de ma profession, effectivement, d'avoir une responsabilité vis-à-vis de nos lecteurs, hein, avoir une grande responsabilité, effectivement, de transmettre l'information. Et l'information, elle devenait vraiment essentielle en ce moment-là, puisqu'il s'agissait tout bêtement souvent de la vie des gens.
Et donc aujourd'hui, vous menez votre travail sur le temps long,
c'est
si
ça,
je puis
ouais.
dire. Comment ça se passe et pourquoi justement ce choix de travailler sur un temps un peu plus long ?
Alors, on avait évoqué avant effectivement un peu le travail d'un localier dans un journal qui peut tout simplement traiter parfois 3-4 actualités dans une seule journée, mais qui va juste les survoler. Et le travail dans le journal devenait vraiment très frustrant pour moi pour ces raisons-là.
Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Donc, j'ai commencé effectivement à réfléchir à l'époque sur les projets au long cours. Un travail qui est installé plus dans la durée pour effectivement rendre mieux compte des réalités en fait dans les différents milieux de la société. Et donc, pour revenir effectivement au projet du moment, il y a deux projets que je traite parallèlement. Le premier, c'est un projet qui parle des derniers mineurs en Europe, donc les mines de charbon en Pologne, qui vont être liquidées d'ici 2049. Et en fait, c'est un sujet qui est finalement aujourd'hui peu connu en France, même si la France avait à une époque une grande tradition en fait de charbon dans le nord de la France, où effectivement beaucoup de mineurs polonais travaillaient dans les mines de charbon en France. Et ce passé-là, ça me paraît vraiment important de le raconter, parce que quelque part, en fait, ça raconte les grandes évolutions dans notre société. Il est question également aussi de l'indépendance énergétique. Et il y a pas mal de choses qui s'entremêlent et qui constituent un vrai sujet pour les photographes. Parce qu'en plus, ce sont des lieux où quelqu'un qui n'est pas journaliste n'a pas toujours l'accès. Ça se passe souvent à 1000 mètres sous terre, en fait, avec des familles qui exercent ce métier de père en fils. Donc, il est question aussi d'identité culturelle dans ces familles, dans ces villes. Et c'est vraiment un projet qui me touche particulièrement.
Et alors comment, dans un monde où tout va toujours plus vite, on revient à traiter l'information dans un temps long ? Mm-hmm. Est-ce que ce n'est pas un peu à contre-temps, justement ?
Mais le travail d'un journaliste, et selon moi, et d'un photoreporter, c'est travailler à contre-temps, c'est réfléchir contre soi-même, c'est réfléchir un peu contre la tendance qui domine la société. Alors effectivement, l'information brute quotidienne, c'est sans doute quelque chose qui est indispensable aujourd'hui, parce qu'il est important de s'informer, d'avoir la bonne information, d'avoir la bonne source. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je bascule vers le travail documentaire, qui à la fois est peut-être un travail aussi pour l'histoire, mais qui est pour moi lié complètement aujourd'hui aussi à un travail sur l'instant, sur l'actualité, qui est indispensable. Et avoir ce temps long dans l'information, cette distance nécessaire pour montrer comment se déroule, par exemple, le travail dans une ferme vendéenne, dans une famille qui s'installe en fait avec 140 brebis en fait, et de la suivre en fait à l'été, au printemps, à l'automne, en hiver, ça me paraît être en fait un traitement juste de l'information.
Alors, j'entends ce que vous dites, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces vidéos qui défilent sur nos téléphones en un glissement de doigts, à un marché de l'attention qui est énorme et où les plateformes s'arrachent notre attention. Qui s'intéresse encore à la photo aujourd'hui ?
Mais après, à la photo elle-même, en fait, elle est partout, en fait. C'est la question... Comment je peux, moi, diffuser, comment je peux, en fait, intégrer ces flux d'images et proposer ces ralentissements, finalement, dans la perception, en fait, de reportages que je peux proposer. Mais, en fait, ça passe tout simplement, d'une part, sans doute, par la qualité du travail de photoreporter, qui doit trouver son esthétique aussi, qui doit travailler aussi sur qui travaille justement sur le temps long et qui est capable de proposer un reportage complet. Et après, il est question effectivement de support. Aujourd'hui, la presse écrite, effectivement, elle traverse aussi une crise. Il y a aussi tout le questionnement de la viabilité de la presse papier aussi. Donc aujourd'hui, effectivement, il s'agit de réinventer aujourd'hui des nouvelles écritures dans la photographie et des nouveaux supports de diffusion. En se servant parallèlement des réseaux sociaux pour qui nous servent juste souvent à montrer ce que nous sommes en train de faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de photoreporters ou des photographes documentaires vont solliciter plutôt les festivals ou des galeries d'art. Et la photographie dite de presse, aujourd'hui, elle se retrouve un petit peu enfermée, effectivement, dans les lieux qui n'ont pas une diffusion peut-être assez large, selon moi.
Il y a un dernier sujet sur lequel j'aimerais vous entendre, qui fait écho à votre voyage, si je peux appeler ça comme ça, en Ukraine. En octobre dernier, le journaliste français Anthony Lalican, qui était photoreporter aussi, il a été tué en Ukraine par un drone russe qui le visait délibérément. Déjà, comment vous avez vécu cet événement? Et ensuite, qu'est-ce que ça dit du rôle des journalistes dans notre société?
Oui, là, on se rend compte à travers de la mort de photoreporter qui, hélas, en 2025, n'était pas le seul photoreporter visé et tué, en fait, dans l'exercice même de son métier. Beaucoup de confrères sont tombés aussi dans la bande de Gaza, en fait, visés également délibérément dans l'exercice de leur métier. Et c'est là où on se rend compte aujourd'hui que l'information est devenue, en fait, pour beaucoup de gens, une arme. Ce qu'elle n'est pas en réalité. L'information est censée être juste une donnée objective qui permet aux concitoyens de se repérer dans le monde. Et le rôle d'un journaliste, c'est effectivement d'informer sans forcément être militant. Si on peut nous coller l'étiquette de militants, nous sommes peut-être juste les militants au service de la vérité, en fait, quand on essaye d'approcher. L'objectivité totale n'existe pas. Mais ces derniers temps, et avant partir du journal, j'ai eu souvent cette discussion avec mes collègues, où je voyais cette tendance où on essaye de nous enfermer aussi dans un journalisme d'opinion. Et c'est peut-être une des dérives, en fait, de ces dernières années, en fait, où j'ai l'impression que certains parlaient, il y a peut-être encore quelques années, de parts d'audience, en fait, dans les médias. Ils luttaient pour les parts d'audience, pour vendre la publicité. Et aujourd'hui, en fait, on s'oriente plus dans une guerre pour les parts de l'opinion publique. Et on pensait qu'avec la chute du mur, à l'époque, quelqu'un avait dit que c'était la fin de l'histoire et que c'était la fin des idéologies. Et je pense qu'on revient encore, la preuve de ce qui se passe aux États-Unis, je pense qu'on revient dans le monde d'idéologie. Et pour te répondre justement à ta question, voilà, viser un journaliste aujourd'hui, c'est un geste qui n'est pas anodin. C'est viser, en fait, cet accès à une information neutre, objective. Un journaliste qui tout simplement est là pour témoigner du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ceux qui tirent sur les journalistes peut-être aimeraient nous vendre le concept d'un monde qu'ils façonnent eux-mêmes.
Merci Derek Schuster.
Merci à toi.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Alors, j'ai un site, darek-schuster.com, qui est disponible en ligne. Donc, je publie toute l'actualité photographique sur ce site-là.
Eh bien, allez-y, darek-schuster.com, c'est ça ?
Merci
Darek. Et merci à vous d'avoir écouté Médiascopie. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, car Médiascopie, c'est le premier samedi de chaque mois à 8h15 sur Alternante FM. Ciao.